France Inter, 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, il se compare à Mandela au Brésil. L'ancien président Lula, condamné cette nuit à 12 ans de prison pour corruption. L'ancien champion de la gauche ne lâche rien. Il promet de revenir au pouvoir d'ici à la fin de l'année. Nouvelle révélation dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. La ceinture explosive de Salah Abdeslam ne fonctionnait pas le soir des attentats. C'est une information France Inter. Si ce n'est toi, c'est donc ton clone. Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à cloner des primates. On verra si l'homme est la prochaine étape. Il passe son premier grand oral ce matin, c'est dans le studio de France Inter. À 8h20, Nicolas, vous recevez l'homme qui s'est promis de révolutionner le bac.
Pierre Mathiot, l'auteur du rapport sur la réforme du baccalauréat. Rapport remis hier au ministre de l'Éducation nationale. Vos questions à 8h40, 01, 45, 24, 7000.
Dans ce journal également, la première élection législative partielle du quinquennat. Ce sera dimanche à Belfort. Quand soigner ses dents vous coûte un bras. Étude 60 millions de consommateurs sur le coût des prothèses dentaires. Et puis à la fin de ce journal, les handballeurs français en demi-finale de l'Euro, c'est fait. Et Boris Becker qui lance un avis de recherche pour retrouver ses trophées.
France Inter.
Une foule acclamant son leader, des milliers de personnes scandant son nom. C'était cette nuit à Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil. La réplique de Lula et de ses partisans après le coup de tonnerre de la justice brésilienne. Quelques heures plus tôt, elle a non seulement confirmé la condamnation de l'ancien président pour corruption, mais en alourdissant sa peine, 12 ans de prison désormais. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
L'ancien champion de la gauche sud-américaine est acculé par la justice, touché, mais pas encore coulé. Il compte bien se représenter en octobre pour redevenir président.
Ah oui, il veut utiliser tous les recours, saisir toutes les instances jusqu'à la Cour suprême et tout faire en réalité pour que la justice aille le plus lentement possible. S'il fait durer jusqu'au mois d'août, date de clôture des candidatures, il pourrait aller jusqu'à la présidentielle d'octobre, dont tous les sondages donnent à penser qu'il en sortirait vainqueur. Le président conservateur ne se représente pas. Aucun candidat ne s'impose au centre de l'échiquier et le principal concurrent à l'extrême droite pèse la moitié de ce que pèse Lula. Et puis, l'ancien métallurgiste président a du coffre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors cette nuit, il en a fait des tonnes.
Mandela était un homme exceptionnel. Il a été en prison, mais il en est sorti. Et ça ne l'a pas empêché d'être élu président de l'Afrique du Sud. C'est Lula qui est sur le banc des accusés. Mais c'est le peuple brésilien qui a été condamné.
Lula qui se prend pour Dieu, victime d'un procès politique légal de Mandela déterminé à tout. Pas sûr que ça se fasse au profit de la démocratie. Lula président, ce serait assez vite Lula destitué. Une fois la justice arrivée à son terme, il y a quand même au total 9 procédures en cours. Et Lula destitué, c'est son vice-président qui prendrait la main. On ne sait pas encore, bien sûr, qui sera le vice-président de Lula si Lula est élu, mais on peut imaginer à peu près tout, y compris Dilma Rousseff, sa protégée, destituée elle aussi pour maquillage de compte public.
Merci Luc Lemonnier.
C'est l'un des mystères des attentats du 13 novembre.
Pourquoi, sur les 10 hommes qui constituaient les commandos, un seul a-t-il survécu? C'est Salah Abdeslam. A-t-il renoncé à faire exploser sa bombe au dernier moment ou en a-t-il été empêché? Eh bien, c'est cette seconde hypothèse que vient conforter une expertise judiciaire qui vient d'arriver sur le bureau des juges et que France Inter s'est procurée. Le terroriste a sans doute été lâché par son gilet explosif qui ne fonctionnait pas ce soir-là. Sarah Guibaudot.
Alors que son frère Brahim se tue devant le comptoir Voltaire, Salah Abdeslam abandonne sa voiture dans le 18e arrondissement et traverse Paris jusqu'à Montrouge où il jette son gilet explosif sur le trottoir. Il manque la pile et le bouton poussoir, mais aujourd'hui le rapport de police scientifique est formel. Même avec ces éléments, le gilet ne pouvait pas exploser. À l'avant, un câble est abîmé. À l'arrière, c'est une pièce du détonateur qui est défectueuse. Le tout a été testé en laboratoire. Le courant ne passe pas. Aucune expertise ne permettra de savoir si Salah Abdeslam a tenté d'appuyer sur le bouton qui devait se trouver sur le gilet, mais ce rapport vient conforter les témoignages de 3 proches, aux 2 amis venus le récupérer à Paris et au dernier homme qu'il a hébergé à Bruxelles. Abdeslam avait confié la même version, son gilet explosif n'avait pas fonctionné. Lui voulait mourir en martyr, il l'a écrit dans une lettre. Il reste une grande inconnue, quelle pouvait être sa cible? On verra le 5 février à Bruxelles où il doit être jugé pour une fusillade. aide si Salah Abdeslam sort de son silence.
Salah Abdeslam qui doit être jugé en Belgique puis en France. Mais qu'en est-il des Français partis en Irak ou en Syrie, en particulier des femmes et des enfants, des combattants du groupe État islamique? Une vingtaine d'entre eux sont retenus actuellement dans un camp de déplacés au Kurdistan syrien. La plupart sont poursuivis en France. Mais là-bas, c'est surtout le flou qui entoure leur situation. Nadi Mouri est membre de l'ONG Human Rights Watch, présent sur place. Il a pu les rencontrer.
Selon les autorités locales, elles ne sont pas officiellement détenues. Il n'y a pas de poursuite judiciaire contre elles et ils ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de les poursuivre. Notamment les femmes qui étaient simplement mariées à Daesh ou qui voilà, étaient là. Mais en même temps, elles n'ont pas le droit de circuler en dehors du camp. Donc c'est en fait une espèce de situation de détention de fait. Même si elles pouvaient sortir aujourd'hui, elles ne sauront pas où aller. Donc elles veulent rentrer chez elles en France. Elles sont prêtes à répondre de leurs actes devant la justice, à s'expliquer. Après, il y a aussi toute la question des enfants. J'ai rencontré plein d'enfants. C'est des petits-enfants français qui ont 2, 3, 4 ans, qui ont la nationalité française et qui sont là, dans des températures le soir qui descendent jusqu'à 2 ou 3 degrés, dans des tentes, qui dans certains cas sont malades. Une des femmes françaises est enceinte, elle est à terme, et elle s'inquiète par rapport aux services dans les hôpitaux, etc. Donc aujourd'hui, la question qui doit se poser est pourquoi la France ne reprend pas ses femmes et ses enfants.
Témoignage recueilli par l'envoyé spécial de France Inter sur place, Jérôme Jadot. Des policiers frappés, un pitbull lancé contre eux, c'était hier après-midi dans l'Essonne, dans la cité des Tarterets de Corbeil. Deux policiers qui procédaient à une arrestation ont été molestés par la famille du suspect pendant qu'un voisin lâchait son chien sur eux. Les deux fonctionnaires sont blessés, ils se sont vus prescrire des arrêts de travail de 30 et 21 jours. Le conflit dans les prisons, toujours dans l'impasse, les discussions devaient reprendre hier soir au ministère de la Justice, où les syndicats avaient rendez-vous les uns après les autres. Le conflit entre aujourd'hui dans sa 11e journée.
Et à 8h07, on ouvre la rubrique Carnet Rose.
Vous connaissiez Dolly, la première brebis clonée il y a 20 ans. Eh bien, voici Zong Zong et Wawa, deux ravissants bébés macaques en tout point semblables. Et pour cause, ils sont nés dans le laboratoire de scientifiques chinois qui, pour la première fois, ont réussi à cloner des primates avec la même technique que pour Dolly. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Alors, depuis Dolly, une vingtaine d'espèces ont été clonées, des chiens, des chats, des porcs, des vaches, mais on n'avait jamais réussi avec des primates. Pourquoi ?
Alors en fait, il s'agit d'une optimisation de la technique. En gros, pour cloner, il faut transférer un noyau prélevé sur une cellule adulte dans un ovocyte à qui on a enlevé son propre noyau. Mais il y a eu de nombreux échecs qui tenaient sans doute à la reprogrammation du noyau transféré. L'équipe chinoise a alors eu recours à des cellules de fœtus déjà différenciées, contrairement à celles d'un embryon, et c'est là que les chercheurs ont gagné en savoir-faire. Puis, classiquement, les embryons ont été transférés dans l'utérus de femelles macaques, 70 embryons, 21 femelles porteuses, 6 grossesses et donc 2 macaques nés vivants qui sont bien clonés car ils proviennent bien de cellules du même fœtus.
La question qu'on se pose évidemment juste après, c'est si c'est possible chez nos cousins, est-ce que ça l'est chez nous, êtres humains ?
Alors là, ce n'est pas si simple. D'ailleurs, si ça l'était depuis Dolly, on compterait davantage de clonage. C'est une technique très compliquée. Et puis, quelle sera la croissance de ces singes qui sont encore tout petits ? Seront-ils capables de servir à la recherche ? Puisque c'est bien ce qui est mis en avant. Disposer de modèles fiables pour lutter contre les maladies. Un argument qui se discute d'ailleurs, car sans passer par cette phase si complexe de clonage, on peut déjà travailler sur des cellules souches qu'on différencie pour tenter de réparer des organes. Alors la grande peur du clonage humain, on peut l'éprouver, certes, à chaque avancée, mais ce n'est pas vraiment pour demain.
Merci Daniel Messager, vous avez raison, ils sont tout petits. Ainsi, c'est 8 semaines, ces deux primates, et les scientifiques nous disent qu'ils sont en pleine forme. Pas les scientifiques, hein, les primates.
8h09, la politique, Marc, les regards seront tournés vers Belfort ce week-end.
Oui, c'est la première élection législative partielle du quinquennat, le Conseil constitutionnel ayant invalidé l'élection d'un député Les Républicains. Premier scrutin test pour Emmanuel Macron, mais il l'est aussi pour l'extrême droite qui va pouvoir se compter pour la première fois depuis la rupture entre Marine Le Pen et Florian Philippot. Chacun a son candidat ou sa candidate, front contre front. Reportage à Belfort, Aurélien Colli.
Merci d'être tous venus.
Une dizaine de militants réunis hier soir dans un café de Belfort.
On approche du moment fatidique.
Jean-Raphaël Sandry, le candidat FN, tente de remobiliser ses troupes avec le député du Nord, Sébastien Chenu, troisième proche de Marine Le Pen, envoyé à la rescousse ces derniers jours.
Emmanuel Macron déconstruit notre pays et nous croyons à la pérennité d'un certain nombre de valeurs. Dans notre pays, on ne porte pas de burqa.
Haro sur Emmanuel Macron, le mondialiste terroriste qui va diluer l'identité française. Règlement de compte aussi avec Sophie Montel, l'ancienne figure locale du FN, devenue candidate des Patriotes de Florian Philippot.
Madame Montel a une passion pour les chiens, les chats. Au lieu d'ouvrir un parti politique, qu'elle ouvre un chenil. Elle aura probablement plus de succès que dimanche dans les urnes.
En face, Sophie Montel attaque aussi les dérapages sulfureux de son adversaire frontiste et son ancien parti recroquevillé sur son vieux fonds de commerce.
Quand vous vous recentrez sur un monothème, savoir la question de l'immigration, de la sécurité et de l'islamisme, c'est plus facile. Il suffit de dire qu'il y a trop d'immigrés en France et nous voilà repartis 25 ans en arrière.
Même reproche de son suppléant, secrétaire départemental du FN pendant 10 ans, avant de lâcher Marine Le Pen.
Moi, je croyais chez Peugeot. Hein. Les gens, ils votaient tous au national. Tout ça, c'est fini. On n'a plus rien en commun avec les ouvriers.
Bonjour, madame.
Mais devant les tracts, tous les affiches, les sympathisants, eux, sont surtout perdus.
Quand on est quelque part, on est fidèle. Mais disons que là, je ne sais vraiment pas.
Belfort, Aurélien Colli, France Inter.
Et à Marseille aussi, les couteaux sont tirés depuis que le maire Jean-Claude Gaudin a annoncé qu'il ne briguera pas de nouveau mandat. C'est son ancien bras droit, Renaud Muselier, qui règle ses comptes avec lui. Il a été son premier adjoint pendant 20 ans, son dauphin aussi, avant de se fâcher avec lui et de présider désormais la région PACA. Voici Renaud Muselier, version sulfateuse.
La réalité, c'est que le maire de Marseille, qui veut imprimer l'image d'un grand maire, montrera que la fin de son mandat, il a été un mauvais maire.
Un mandat de trop.
Deux mandats de trop. Le mandat précédent était un mandat de cohabitation politico-mafieuse avec M. Guérini. Et deuxième mandat, celui-là, ne sert à rien. Ça fait deux mandats pour rien. La fin est dramatique, l'état de la ville est quand même catastrophique, et lui montrera bien qu'il a été un mauvais maire parce qu'il n'aura pas préparé sa succession par rapport à l'ambition qu'il s'est donnée ou qu'il aura voulu donner à sa ville.
Renaud Muselier interrogé sur Public Sénat. La croissance était bien là, mais ça n'a pas suffi. Le chômage n'a quasiment pas reflué l'année dernière en France, seulement 15 000 chômeurs de moins. De l'eau qui monte pour les uns, de la gadoue pour tous les autres. Le nettoyage a commencé pour les sinistrés des inondations, alors qu'un bon quart nord-est du pays est toujours sous la menace des crues. On va en reparler dans quelques minutes. 15 départements sont en vigilance orange. De nouvelles pluies devraient faire monter encore un peu le niveau de la Seine et de la Marne. Le pic est attendu demain ou après-demain.
Il est 8h12, elles coûtent cher, elles sont mal remboursées par la Sécu, ce sont les prothèses dentaires.
Voilà une étude qui tombe à pic alors que les dentistes et la Sécurité sociale sont en pleine négociation sur les tarifs. Le magazine 60 millions de consommateurs a étudié les prix de 5000 praticiens. Combien pour une couronne par exemple? Eh bien cela dépend en grande partie de la ville dans laquelle on vous la pose. Véronique Julien.
Aujourd'hui, 17% des Français renoncent aux soins dentaires à cause de leur prix. Pas étonnant quand on sait que dans le domaine, sur 11 milliards de dépenses annuelles, la Sécu n'en assume qu'un tiers, les complémentaires 40%, le reste 3 milliards étant à la charge des ménages. C'est vrai surtout pour les prothèses. Là-dessus, contrairement aux soins conservateurs, les honoraires sont libres pour la pose d'une couronne par exemple. Les tarifs oscillent entre 519 euros à Nîmes et 704 euros à Paris, mais la Sécu ne rembourse qu'une centaine d'euros. Pire, pour la pose d'un bridge, les prix varient de 1500 euros à Toulon jusqu'à 2000 euros à Boulogne-Billancourt. L'assurance maladie ne rembourse que 10 à 15% de ces sommes. Même avec une complémentaire santé de bonne qualité, le patient doit donc souvent payer de sa poche quelques centaines d'euros, sans parler des implants ou des maladies de la gencive non prises en charge par la Sécu, ce qui se traduit là encore bien souvent par une facture salée pour le particulier. En 2016, près de 10 000 Français ont choisi de partir à l'étranger pour faire soigner leurs dents à moindre coût. Espagne, Hongrie, les tarifs y sont nettement inférieurs, mais attention aux conditions de prise en charge ainsi qu'aux garanties qui s'appliquent en cas de problème.
Les chiffres, le comparatif et une infographie pour tout comprendre, c'est sur franceinter.fr. Une chance au grattage, une chance au tirage et le pactole pour la Française des Jeux. Elle a connu une année 2017 en or massif avec des ventes en hausse de près de 6%, portées notamment par les jeux de grattage qui représentent désormais plus du tiers de ces ventes. Sur les 15 milliards d'euros entrés dans ces caisses, 10 milliards ont été rendus aux joueurs sous forme de gains et un peu moins de 800 millions reversés aux buralistes.
6 victoires en 6 matchs, ça c'est fait.
La France qualifiée pour les demi-finales de l'Euro de handball, nouveau succès hier soir face à la Croatie, 3 petits buts d'écart, 30 à 27. Demain, c'est l'Espagne qu'il faudra battre pour jouer la finale. A-t-elle triché pour échapper à la patrouille? La numéro 3 française de tennis, Alizé Cornet, est sous le coup d'une procédure disciplinaire pour infraction à la législation antidopage. Elle a raté 3 contrôles inopinés et risque jusqu'à 2 ans de suspension. En attendant, la joueuse est écartée de l'équipe de France de Fed Cup. Et pendant ce temps, c'est une ancienne gloire du tennis qui lance un avis de recherche. Boris Becker ne retrouve plus certains de ses trophées. 5 coupes soulevées en grand chelem ont disparu de ses placards. Ça tombe mal, car il voulait les revendre pour éponger ses dettes. Jérôme Val. Ces 5 trophées sont introuvables. Monsieur Becker ne se rappelle plus où ils sont, détaille un communiqué du cabinet qui gère la banqueroute de celui que l'on surnommait Boom Boom. 5 coupes glanées à Wimbledon dans les années 80 et à l'Open d'Australie la décennie suivante. Plusieurs institutions ont été interrogées sans succès, d'où cet appel au grand public. Une adresse mail a été spécialement créée pour recueillir toutes les informations utiles. S'il remet la main dessus, Becker espère pouvoir revendre ses trophées. 1 million d'euros pour les 3 saladiers de Wimbledon. Une somme qui servira à éponger les dettes qu'il traîne comme un boulet depuis la fin de sa carrière. Plusieurs dizaines de millions d'euros qui lui ont valu une mise en faillite personnelle, peine prononcée par un tribunal de Londres en juin dernier. Boris Becker a dilapidé sa fortune dans des investissements douteux et dans un divorce ruineux. Son avocate expliquait à l'époque que l'ancien joueur n'était pas très performant en matière de finances. Visiblement, il ne l'est pas non plus dans le rangement de ses affaires personnelles.
Et sur les courts, cette nuit, c'est la Danoise Caroline Wozniacki qui s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie. La Coupe de France de football, Lyon tient le choc face à Monaco. Victoire 3-2 pour Lyon, qualifié donc pour les huitièmes de finale, tout comme le PSG, Montpellier, Metz et Troyes. Enfin, ne vous fiez pas aveuglément à votre GPS en voiture pour l'avoir oublié. Un conducteur américain vient de finir sa journée par un plongeon dans le lac Champlain, près de la frontière canadienne. Son GPS lui conseillait d'avancer tout droit. Il y avait un peu de brouillard, alors il n'a pas vu que la route s'arrêtait. Les policiers qui sont venus le sauver ont d'abord cru qu'il avait bu, mais il avait juste oublié de faire la mise à jour de son GPS.